Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver. Nouveau numéro d'International, un regard sur l'actualité du monde, avec aujourd'hui un invité qui n'est peut-être pas très connu du grand public. Abdoulaye Batili, merci d'être avec nous. Vous êtes le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Nous allons venir sur cette région du monde. Vous êtes homme politique, vous êtes diplomate, historien, et nous allons parler d'une région dont probablement les téléspectateurs, lecteurs du Monde et auditeurs de RFI entendent parler ou lisent très régulièrement, puisque ce sont 11 pays d'Afrique qui cumulent un certain nombre de difficultés, nous le verrons. Je les cite pour RFI, il s'agit de l'Angola, du Burundi, Rwanda, du Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée, République démocratique du Congo, Sao Tomé ou encore bien sûr le Tchad. Beaucoup de questions à vous poser avec Sophie Malibo de RFI et Cyril Ben-Simon, spécialiste de l'Afrique au quotidien Le Monde, notre partenaire pour cette émission. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on fasse un gros plan sur cette région, sur cette Afrique centrale, pour mieux en percevoir précisément les difficultés et les éléments d'espoir que vous nous apportez.
C'est l'une des régions les plus instables de la planète et paradoxalement, l'une des plus oubliées. Du golfe de Guinée au Grand Lac, l'Afrique centrale abrite certains des pays les plus pauvres au monde. Leurs richesses sont pourtant immenses. Jamais l'Angola, le Tchad, le Cameroun ou le Congo n'ont produit autant de pétrole. Jamais la République démocratique du Congo n'a extrait autant de minerais de son inépuisable sous-sol. Mais quand ces ressources n'enrichissent pas une poignée de privilégiés, elles sont au centre de guerres interminables. Dans l'est de la RDC, cela fait 20 ans que des groupes armés se disputent le contrôle des mines sous couvert de conflits interethniques ou frontaliers. Plus de 6 millions de morts, c'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. En 2013, la Centrafrique voisine s'est embrasée à nouveau. Déjà minée par 10 ans de guerre civile larvée, le pays a sombré dans la haine entre communautés et l'intervention des forces internationales n'a pas mis fin aux violences. Nouvelle menace jusque-là inédite dans cette partie de l'Afrique, le terrorisme. À l'ouest, Boko Haram n'est plus seulement une menace pour le Nigeria. Face aux incursions de plus en plus fréquentes du groupe islamiste, le Cameroun et le Tchad ont lancé leurs armées à l'assaut de la secte terroriste. À l'est, le Burundi, engagé en Somalie au sein de la force de l'Union africaine, est régulièrement menacé de représailles par les islamistes Shebab. Autre menace sanitaire, celle-ci, le virus Ebola. Tous les pays de la zone sont en alerte. Le risque d'une propagation de la souche ouest-africaine est important. Mais face à la fièvre hémorragique, l'Afrique centrale semble un peu mieux armée car plus expérimentée. Le Gabon, le Congo sont déjà venus à bout de la maladie 4 fois, la RDC 6 fois. Corruption organisée, incurie des administrations, l'État est souvent absent en dehors des grandes villes. Quant au chef d'État, entre élections contestées et révision de la Constitution, il se rêve souvent président à vie. En Afrique centrale, des figures de la société civile ou de l'opposition sont souvent jetées en prison quand elles ne sont pas assassinées. Un climat politique délétère qui ajoute un peu plus de chaos à cette instabilité endémique.
Abdoulaye Batili, nous ne sommes pas dans cette émission et sur ces antennes de RFI ou de TV5, naturellement, pour céder à l'afro-pessimisme. Beaucoup de difficultés. Pourquoi cette partie de l'Afrique va-t-elle si mal, ou plutôt souffre-t-elle d'autant de maux?
Je pense qu'il y a une tendance à présenter les choses de manière, je dois dire, trop pessimiste. En réalité, quand on regarde la situation interne des différents pays et de manière globale, on jette un regard sur ces pays, on constate des évolutions très intéressantes. Moi-même qui suis originaire de l'Afrique de l'Ouest, en regardant cette région avant d'y arriver, j'avais l'impression effectivement que les choses ne bougent pas. Au contraire, quand on regarde de plus près, on constate effectivement qu'il y a des bouleversements même qui s'opèrent dans ces pays sous le rapport économique, sous le rapport social, sous le rapport politique.
Donc vous dites
il y a des changements importants dans chacun de ces pays et globalement dans la région. Bien sûr, il y a des points sombres que votre présentation de tout à l'heure a mis en évidence, mais il y a aussi beaucoup de lumière. qui commence à poindre.
Nous allons vous poser beaucoup de questions sur ces différents pays. Le monde regarde ailleurs, pour reprendre une formule célèbre de Jacques Chirac, c'était à propos, cette fois-ci, du climat, mais le monde regarde plutôt en Syrie et en Irak que dans cette région du monde, et une forme de résignation sur le fait qu'il y a des crises longues et qui, au fond, ne menacent qu'indirectement l'Occident.
C'est une erreur d'appréciation, parce que cette région, comme toutes les régions du monde, sont exposées au phénomène de la mondialisation, à la fois la mondialisation économique, la mondialisation politique. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des ressources naturelles dans cette région. Et les ressources naturelles de cette région participent de l'évolution économique du monde. Le pétrole angolais, le pétrole congolais, les diamants de Centrafrique, les diamants du Congo... démocratique.
Le bois et bien d'autres ressources.
Hein, c'est une région aux immenses, non seulement potentialités, mais aussi aux ressources qui participent de l'évolution économique du monde et politique aussi. Et les répercussions de ces phénomènes économiques et de ces richesses sur l'attrait que ces ressources exercent sur différents groupes politiques, et on y reviendra certainement.
Sophie Malibo, RFI.
Quand on parle des questions d'urgence dans l'actualité en ce moment, c'est l'organisation de l'État islamique contre lesquelles il y a une intervention. Est-ce que vous avez l'impression qu'on prend la mesure du danger que représente Boko Haram? Est-ce que vous estimez que cette secte islamiste, extrémiste, donc issue du Nigeria, présente une menace et qui peut être mise en lien avec le djihadisme façon organisation de l'État islamique?
Il y a un phénomène de contagion qu'on constate. Depuis la Libye, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sahara et le Sahel de manière générale, et ces régions du Golfe de Guinée. Incontestablement, tous ces groupes djihadistes, ces groupes terroristes ont de plus en plus tendance, lorsqu'ils sont refoulés à partir de leur zone privilégiée d'intervention.
Il n'y a plus de frontières.
Il n'y a plus de frontières. Je crois que le mouvement Boko Haram, c'est très net. Aujourd'hui, on avait considéré que c'était un mouvement venu du Nigeria et qui allait se circonscrire au territoire nigérien, mais on constate aujourd'hui que le Cameroun est non seulement menacé, mais commence déjà à subir les contre-coups.
Pardon, mais on se souvient d'une mobilisation mondiale sur Rendez-nous les filles, ces centaines de lycéennes qui ont été enlevées, qui menaçaient d'être vendues. Elles n'ont pas été retrouvées, elles n'ont pas été sauvées, et on n'en parle plus.
Oui, on en parle toujours, mais disons qu'on n'a pas retrouvé les filles, malheureusement.
On a tout fait pour les retrouver. On a tout fait.
Oui, bon, enfin, je ne sais pas quels sont tous les moyens qui ont été utilisés, mais on constate en tout cas qu'on ne les a pas retrouvés.
Et on les retrouvera ?
Je ne sais pas.
Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en termes de réponse qui est donné par les différents pays ? On a l'impression que, par exemple, chaque pays aujourd'hui tient à défendre sa propre entité. Le Cameroun mène des actions sur son territoire, le Tchad également, et pour ce qui est du Nigeria, tout est délégué quasiment à l'armée nigériane. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en termes de réponse globale ?
Je pense qu'il n'est pas possible de trouver une réponse nationale dans le cadre des espaces territoriaux actuels à ces problèmes de terrorisme. Ces terroristes sont organisés, mieux organisés que les États nationaux.
Les États sont plutôt en retard.
Et donc, il est indispensable que se construise une solidarité entre les États dans le domaine sécuritaire.
Mais justement, est-ce que vous avez vu quelque chose?
Au-delà des États de la région, il faut une coalition internationale dans le domaine sécuritaire pour donner des réponses immédiates à ces problématiques. Mais au-delà des réponses immédiates, il faut des réponses en profondeur qui sont liées à des réformes de gouvernance. Parce qu'il faut s'attaquer aux racines du problème, pas seulement aux conséquences immédiates.
Et comment est-ce qu'on s'attaque au problème Boko Haram ? Quelle est la racine du mal, selon vous ?
Eh bien, que ce soit Boko Haram, que ce soit l'ordre de résistance armée, la LRA, qui aussi opère dans cette région, il y a la problématique de la gouvernance. Vous savez, après les indépendances des années 60, on a pensé qu'on pouvait construire des États nationaux à partir des territoires issus de la colonisation, et on constate que la construction de l'État rencontre des obstacles, enfin, le modèle qui a été appliqué jusqu'ici. Il faut considérer qu'il y a à l'espace, dans le cadre de ces différents espaces territoriaux, des entités, des identités, une diversité.
Les frontières ne marchent plus, les frontières postcoloniales ne marchent plus ?
Non, c'est-à-dire que les territoires tels qu'ils ont été construits par la colonisation et tels qu'ils ont été maintenus après les indépendances, il faut revoir le modèle de la gouvernance et avoir une gestion de la diversité qui tienne en compte ces réalités culturelles, ces réalités politiques, ces réalités religieuses.
Mais Abdoulaye Bathily,
et cela n'a malheureusement pas été souvent le cas.
On sait
et
que ces États ne se parlent pas, pardon de vous interrompre, mais ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, ces États. Il a fallu un sommet à Paris pour que le Cameroun et le Nigeria discutent alors qu'ils sont voisins. Ils ne parlent pas.
Oui, vous savez, dans le cadre de l'Union africaine, il y a ce qu'on appelle les regroupements régionaux. Et dans le cadre de ces regroupements régionaux, le Nigeria et le Tchad font partie de deux différentes entités. Le Nigeria fait partie de la CDAO.
Oui.
Et le Tchad fait partie de la CAC. Ces deux régions sont organisées suivant des communautés économiques régionales qui n'ont pas connu le même rythme d'organisation ni de développement du point de vue institutionnel. Et il est question aujourd'hui de plus en plus qu'il y ait un rapprochement entre ces deux entités. Par exemple, dans le cadre d'une problématique qui nous intéresse dans cette région, la piraterie maritime qui sévit dans la région du Golfe de Guinée. On a constaté que pour lutter contre la piraterie maritime, il faut que ces deux régions arrivent ensemble. Le 11 septembre dernier, nous avons inauguré avec les deux entités CDAO et CAC, les deux communautés régionales, un centre interrégional de coordination dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime avec le soutien des Nations Unies. J'étais à cette réunion et on se rend compte de plus en plus qu'il faut, sur le plan local, ces solidarités-là.
Oui.
Sinon, on ne peut pas, à l'espace, dans le cadre des espaces territoriaux nationaux, régler ces questions.
Et vous trouvez que ça a bougé ?
Transcende les frontières.
Vous trouvez que ça a bougé depuis le sommet qui s'est tenu à Paris en mai dernier contre justement le terrorisme de Boko Haram ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis ? Est-ce qu'il y a plus de partage d'informations ? Le résultat ne montre aucune évolution.
Oui, c'est un mouvement qui vient de commencer. Récemment, les pays de la région du lac Tchad se sont mis ensemble. Ils appartiennent à deux entités différentes. Hein. Vous avez le Niger et le Nigeria qui sont ensemble à la CDAO, mais vous avez le Tchad, vous avez le Cameroun qui sont à la CAC. Donc ces régions du bassin du lac Tchad se sont mis ensemble face au péril Boko Haram. Et ça, c'est important aujourd'hui.
On vous entend nous répondre sur des entités institutionnelles face à l'urgence, pardon d'y revenir, mais de ces lycènes qui ont été enlevés, les terroristes finalement sont plus souples, j'allais dire plus malins que les États pour s'organiser.
Ce n'est pas un phénomène purement africain, je dois vous le dire. Quand vous allez au Moyen-Orient aujourd'hui,
c'est vrai.
C'est une réalité. Vous allez même en Europe, en Amérique. On est dans une nouvelle phase de l'histoire du monde où, en constatant les insuffisances, les lacunes des États tels que légués par l'histoire du 19e siècle et du 20e siècle, les États ne sont plus aptes à faire face à ce type de menace. Que ce soit les États les plus grands, regardez les interventions des États-Unis, de la France, des grandes puissances, que ce soit en Afghanistan et ailleurs. Vous avez une puissance militaire extraordinaire, des moyens colossaux, technologiques, mais les groupes armés, ces groupes terroristes ont eu la possibilité aujourd'hui de maîtriser ces technologies, même plus que les États, et ils opèrent dans des conditions même qui leur sont beaucoup plus favorables parce qu'ils ne sont pas intéressés à la construction d'un État. Ils veulent détruire.
Mais est-ce qu'il ne...
Face à cela, les États sont désarmés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate dans les pays développés et encore plus dans les pays les moins développés.
Mais est-ce que les États ne continuent pas de réagir de cette manière ancienne, c'est-à-dire tant que le feu ne me menace pas, je laisse le problème de côté ?
C'est ça la grave erreur. Donc, il faut une prise de conscience au niveau mondial pour modifier les bases de la gouvernance à la fois au niveau international, mais aussi au niveau national. C'est un appel, une interpellation qui est posée à tout le monde aujourd'hui. Et
le point faible, est-ce que ce n'est pas aussi l'état des armées africaines? Leur état d'équipement, leur état de formation, leur capacité à prendre les choses en main
Les armées nationales n'ont pas la capacité de répondre à ce type de menace. Il y a quelques années, j'ai participé à une vaste enquête sur les armées africaines. Nous avons publié avec des chercheurs africains un livre intitulé « The Military and Militarism in Africa », les militaires et le militarisme en Afrique, où nous avons constaté déjà, il y a plus de 15 ans de cela, l'incapacité des armées africaines dans le modèle actuel de faire face à ce type de menace. Et naturellement, la question se pose aussi pour les armées, même dans les pays développés. Donc là aussi, il y a toute une réflexion à développer sur le rôle des armées, leur aptitude à répondre à ce type de menace.
Abdoulaye Batini, actuellement dans une autre partie du monde, Irak, Syrie, il y a les frappes aériennes. Est-ce que c'est une bonne réponse, disons, des puissances occidentales face à cette menace du djihadisme ?
C'est une réponse immédiate qui peut, à mon avis, contribuer à désorganiser, sans doute sur le plan matériel, disons les offensives de ce type de mouvement. Mais il faut aller beaucoup plus loin, encore une fois,
au sol,
les réponses
par exemple,
politiques et les réponses sociales.
Il faut des militaires au sol ou il faut des réponses à plus long terme contre la pauvreté?
À mon avis, il faut une combinaison de tous ces facteurs. À la fois l'intervention militaire, mais également des réponses politiques dans les pays concernés. Encore une fois, une réponse du point de vue de la gouvernance, c'est ça qui, à long terme, va mettre fin à ces questions. Parce que vous voyez, ces mouvements terroristes, c'est des mouvements illégitimes, de mon point de vue, mais qui essayent de confisquer des revendications légitimes et, sur la base de cela, désorganisent.
Par exemple, quand vous parlez de gouvernance, de réponse en termes de gouvernance, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Eh bien, vous savez, de mon point de vue, il faut tenir compte du fait aujourd'hui que la gouvernance à partir d'un système administratif homogène sur l'ensemble du territoire, dans aucun des pays, n'est valable. Il faut créer des espaces territoriaux qui tiennent compte de ces identités. On ne peut pas, par exemple, le modèle de gestion issu du bonapartisme, par exemple, ne peut
le
pas fonctionner.
Le centralisme, par exemple,
le
au Mali.
Le centralisme, ça ne peut pas fonctionner.
Plus au de Mali, par exemple.
Ça ne peut pas fonctionner au Mali, ça ne peut pas fonctionner au Sénégal, ça ne peut fonctionner dans aucun pays. Et même, vous voyez aujourd'hui, à la faveur de la crise mondiale du système, même les pays où cette question, la question nationale ne se posait pas, elle se pose aujourd'hui. Regardez en Angleterre, regardez en Espagne. Donc, le monde entier est aujourd'hui interpellé sur la nécessité de réfléchir sur un nouveau modèle de gouvernance qui fait cas de la diversité.
Abdoulaye Batini, vous nous dites
et de leurs aspirations.
Vous nous dites que les États-nations, au fond, c'est pas la réponse. Est-ce que l'ONU reste la réponse? Je rappelle que vous êtes représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, mais est-ce que l'ONU fonctionne lorsque le Conseil permanent n'est pas représentatif du monde, lorsque les puissances opposent leur veto? Ça marche encore, l'ONU, pour répondre à ces menaces terroristes?
L'ONU a une réponse, mais qui n'épuise pas, évidemment, on le dira. Il faut pas oublier quand même que l'ONU, c'est une organisation des gouvernements.
Ouais.
C'est pas autre chose.
Toujours.
Donc c'est toujours des compromis qui amènent à des stratégies qui sont développées. Donc il y a des limites. Mais par exemple, dans le cadre de la résolution de ce type de crise, il faut une combinaison de l'action de l'ONU et des organisations régionales, des organisations sous-régionales.
Voici des questions.
C'est ce qu'on essaie de faire, par exemple, en Centrafrique.
On va parler de la Centrafrique, M. Batini, pardon de vous interrompre. On en parle juste après le point d'actualité sur les antennes de RFI et sur celle de TV5 Monde. On vous retrouve dans un instant.
Thank you.
retour international, nous recevons aujourd'hui sur les antennes de RFI de TV5 Monde, en liaison avec le quotidien Le Monde. Nous recevons Abdoulaye Batili, haut représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale. Alors, on a beaucoup parlé du terrorisme, de la menace dans cette première partie de l'émission. Il faut rappeler que les 11 pays pour lesquels vous travaillez, monsieur, sont des pays qui, évidemment, sont marqués par cette lourde menace. Gros plan, Sophie Mélibo, sur l'un de ces pays à présent.
Oui, la Centrafrique. Hier, c'était ce samedi, la Tabaski, la fête de l'Aïd. La présidente de transition, Catherine Samba-Panza, est allée voir les musulmans dans leur quartier. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste? Est-ce que vous trouvez que c'est un signe favorable, un signe d'optimisme concernant la situation en Centrafrique?
Je crois qu'il faut saluer cette initiative de la présidente de transition. Centrafrique est un pays qui a subi une crise très profonde de deux décennies au moins, et quatre interventions des Nations Unies, un pays divisé profondément sur des bases régionales, ethniques, et malheureusement récemment aussi des conflits intercommunautaires sur le plan religieux qui n'existaient pas avant 2013. Alors je pense que il est indispensable pour un succès de cette transition que les communautés commencent à se reparler, que les acteurs commencent à se reparler. Et c'est une des tâches essentielles, c'est-à-dire la réconciliation nationale. Et nous, au niveau de la médiation internationale, c'est ce que nous essayons de prôner comme approche.
Mais est-ce que ça peut se faire dans le cadre d'un État qui manque absolument de moyens, qui n'a pas les moyens de sa propre sécurité, qui n'a pas les moyens de rendre la justice, qui est dépourvu de tout encore actuellement?
Non, absolument. Et c'est là toute l'importance de l'accompagnement international, aussi bien des Nations Unies avec la mission de paix qui est en place depuis le 15 septembre dernier, mais également de l'Union africaine et de l'organisation sous-régionale, la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, qui, il faut le dire, joue un rôle très important. Vous savez que cette région, on le souligne pas assez. Malgré son niveau de développement institutionnel très peu important, elle a quand même contribué à payer les salaires, à accompagner un des pays membres. Et ça, c'est important.
Et se trouve de plus en plus lasse aujourd'hui. Par exemple, le président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ne cache pas sa lassitude. Le président Déby a été particulièrement agacé contre la présidente de transition, Catherine Samba-Panza. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous retrouvez pas dans une situation où même la région commence à être un petit peu fatiguée de cette situation?
Oui, on peut être tenté par la lassitude, mais ce que j'ai constaté à la dernière réunion de New York, convoqué par le secrétaire général des Nations Unies, une réunion spéciale en marge de l'Assemblée générale sur Centrafrique, tous les pays de la région étaient représentés, y compris au niveau le plus élevé, et ils ont réaffirmé leur soutien à Centrafrique. Et je constate sur le terrain que ce soutien-là ne fait pas défaut.
Sur le plan, sur le plan local, est-ce que vous n'avez pas un problème d'interlocuteur? Par exemple, du côté de la Séléka, c'est un groupe très divisé. Du côté des Antibalaka, il y a un problème aussi de représentativité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il va falloir remettre autour de la table les anciens leaders que sont, par exemple, Michel Djotodia pour la Séléka ou l'ex-président Bozizé, qui lui est en exil en Ouganda? Est-ce qu'il faut les remettre autour de la table pour ramener la paix?
Ce qui est important, au forum de Brazzaville le 23 juillet, nous avons réussi à obtenir la signature d'un accord de cessation des hostilités.
Qui ne marche pas.
Et depuis l'instant. Ça marche. Il y a eu des atermoiements, il y a eu beaucoup de retard avec la formation du gouvernement qui a pris beaucoup de temps. Mais nous sommes allés à Bambari avec l'Union africaine, avec la MINUSCA, pour discuter avec les chefs militaires de la rébellion à Bambari.
Il y a eu encore une vingtaine de morts cette semaine.
Pardon?
Où il y a eu encore une vingtaine de morts cette semaine.
Oui, mais ça, c'est ce type de crise, il ne faut pas se faire d'illusions en pensant que ça va se terminer du jour au lendemain parce qu'on aura signé un accord, le lendemain il n'y aura plus de bagarre. Non, il y en aura toujours. Mais ce que je constate sur le terrain, il y a une volonté de plus en plus affirmée de beaucoup d'acteurs de cette transition d'aller au fond de la question, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des acteurs religieux. Et il faut pousser à la roue, et la réunion de New York a insisté sur cette dimension-là. Une transition apaisée où les centres, pendant laquelle les centrafricains vont se parler entre eux. Et ça, c'est fondamental.
Et la confiance dans les autorités du pays, est-ce qu'elle est au rendez-vous? Il y a des difficultés en matière de bonne gouvernance. On a vu Catherine Samba-Panza se rendre en Angola, revenir avec beaucoup d'argent, dont une partie se serait un peu évaporée. Est-ce que cette affaire pose problème réellement?
Oui, cette question certainement pose problème, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tout le monde veut tourner la page de ce type de gouvernance. Et je constate, en tout cas avec la réunion de New York, où beaucoup de ces questions en privé ou en public ont été posées, il y a une volonté exprimée de part et d'autre.
Mais il n'y a pas de réponse.
D'effacer cette... disons de tourner cette page.
Justement.
Comment on tourne la page s'il n'y a pas de réponse aux questions qui sont posées?
Non, il y aura une réponse, je pense. Il y aura une réponse.
Depuis le 15 septembre.
Et Ben Simon, Le Monde.
Depuis le 15 septembre, il y a maintenant une nouvelle force sur place, la MINUSCA, qui a pris le relais de la force de l'Union africaine, avec sensiblement les mêmes troupes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur de vous retrouver dans une situation qu'on pourrait comparer de situation à l'ivoirienne, c'est-à-dire un pays quasiment coupé en deux, des forces internationales au milieu et une transition qui se prolonge indéfiniment?
Oui, je crois que c'est sur cela que nous avons insisté pour que la transition se focalise sur une feuille de route clairement définie, avec un chronogramme précis. Et aujourd'hui, la question de la réconciliation nationale va être lancée. Un groupe de travail, disons, une commission de suivi des accords de Brazzaville a été mise en place. Il faudra certainement la rendre plus inclusive. La question des élections est posée. Le président de l'Agence nationale des élections a posé la problématique du budget pour les élections. Tout cela avec la communauté internationale sur place, le G8, le groupe des 8, on est en train de discuter de cette question pour que véritablement on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire une transition la plus courte possible, apaisée sur la base d'une feuille de route très claire.
Vous ne craignez pas que les différents acteurs vont tout faire pour ralentir ce processus, justement parce que ça leur permet à chacun de se maintenir en fonction?
Eux n'y ont pas intérêt, la communauté internationale n'y a pas un intérêt parce que la prolongation de cette crise centrafricaine risque d'avoir des conséquences très graves sur non seulement le pays, mais aussi les pays voisins. N'oublions pas, on a parlé tout à l'heure de Boko Haram, il y a la LRA, l'Ordre de Résistance Armée, et l'approfondissement de la crise risque de créer de plus en plus un vide qui serait favorable à l'extension de la crise et donc l'intervention de ces forces terroristes dans le pays, ce qui va déstabiliser l'ensemble des pays de la région.
Le scrutin était prévu initialement au mois de février 2015. On sait que ce sera reporté. Ça peut durer combien de temps? Plusieurs mois ou peut-être une année de plus?
Je ne peux pas fixer une date ici, mais ce que je constate, c'est que tout le monde est conscient que même si... Il est vrai que la date de février ne peut pas être tenue, mais il ne faut pas s'en écarter de trop loin. Encore une fois, parce que le risque d'une aggravation de la crise est là.
Et quel sera le critère qui permettra de dire « ça y est, on est prêt pour des élections »
Non, là, actuellement, nous allons, avec la mise en place de la commission de suivi des accords de Brazzaville, d'une part, et d'autre part, l'organisation des forums dans les préfectures, et du Forum national de réconciliation nationale à Bangui, et parallèlement organiser avec le processus électoral les inscriptions sur les listes électorales et tout le reste, eh bien, je pense qu'on peut quand même raisonnablement penser que quelques semaines de plus, on peut boucler la boucle.
Abdoulaye Bathily, donc représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour cette région, pour l'Afrique centrale. Autre difficulté à laquelle vous faites face également, on l'a vu tout à l'heure dans le petit rappel, dans le petit sujet, c'est ce risque sanitaire. Comme si le terrorisme, comme si les guerriers ne suffisaient pas, Ebola menace les déplacements de population, menace peut-être les investisseurs. Est-ce que la réponse internationale et la réponse de l'Afrique vous semblent à la mesure des enjeux et des risques?
Je crois qu'au départ, il y a eu peut-être une sous-estimation de la gravité de ce phénomène. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois que maintenant, la question a été prise à bras le corps par à la fois la communauté internationale, les organisations sous-régionales et régionales. Mais de toute façon, devant une crise d'une telle ampleur, la réponse n'est pas de fermer les frontières, qui ne sont jamais, d'ailleurs, ne sont jamais hermétiques. On ne peut pas, à part les barrières frontalières dans les villes, mais ailleurs, ce n'est pas possible. Donc il faut une réponse collective, solidaire. Et c'est ça, je crois.
Et vous la voyez sur le terrain, en dehors de l'aide internationale? Vous la voyez concrètement arriver?
Les États sont contraints à ça. Sinon, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution. À mon avis, il faut une réponse collective, solidaire.
Ebola, c'est une maladie qui sévit depuis de longues années en Afrique. Quelle est votre analyse de cette situation? Comment ça se fait, selon vous, que rien n'a été fait, énormément est fait sur le paludisme, même si, ou sur le sida. Comment ça se fait que Ebola, on en soit arrivé là?
Eh bien, moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé pour donner les caractéristiques de cette pandémie.
Mais ce sont un problème des systèmes de santé des États?
Oui, il y a le problème du système de santé. Bon, il y a beaucoup d'institutions qui ont ces problèmes, ces faiblesses, ces manquements. Ça, c'est clair. On le voit à travers la propagation de ce virus. Mais au-delà de ça, il y a peut-être, vous savez, dans l'histoire, moi, je vois, il y a des civilisations qui ont disparu, dont on n'a plus trace. Peut-être que c'est lié à ces phénomènes-là de contagion.
Abdoulaye Bathily, quand on doit faire face, comme vous, à autant d'urgences, où sont les priorités? On se dit, en vous entendant peut-être, cet homme, il gère des choses impossibles. Des pauvretés, guérilla, etc. Où sont les priorités? Vous vous dites, voilà, dans le temps de mon mandat, je voudrais réussir quoi?
Non, les priorités, vous savez, il ne faut pas aussi demander aux Nations Unies ce qu'elles ne peuvent pas faire. Les Nations Unies peuvent contribuer, mais les acteurs principaux, c'est les États sur le terrain, c'est les citoyens eux-mêmes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas lieu d'être pessimiste. Dans tous ces pays, qu'on parle de gouvernance, qu'on parle d'évolution économique et institutionnelle, il y a de manière souterraine des transformations importantes. Il y a des opinions publiques de plus en plus. Il y a une société civile vibrante de plus en plus. Et le processus démocratique, c'est des transitions démocratiques qui sont douloureuses, difficiles, mais qui connaissent des progrès.
Si on peut vous interrompre sur ce point, il va y avoir au cours des deux prochaines années dans cette région d'Afrique centrale beaucoup d'élections. On a parfois le sentiment, vous me passerez la formule, qu'un certain nombre de chefs d'État bricolent un peu la constitution pour être, et c'était rappelé tout à l'heure, un peu président à vie. C'est ce type de gouvernance, certains dirigeants sont là depuis 30 ans. Cette gouvernance n'est-elle pas l'une des causes ou de corruption, de prévarication que l'on voit bien, qu'on observe?
Oui, quand on voit ce qui s'est passé dans cette région de l'Afrique comme dans d'autres régions d'Afrique les 20 dernières années de transition démocratique, on peut considérer que malgré ces phénomènes qu'on voit, ces trains qui n'arrivent pas à l'heure, il y a des réalités importantes, des événements importants. Je disais tout à l'heure qu'il y a le pluralisme s'est enraciné, même si le rythme n'est pas encore important.
Pas les alternances. Vous avez le pluralisme, oui, mais pas les alternances.
Oui, il y a les alternances au niveau des États, mais au niveau de la société, il y a un bouillonnement. Il y a le pluralisme qui s'exprime. Il y a la presse quand même qui a évolué dans ces pays, quoi qu'on dise. Et ce sont autant de phénomènes auxquels il faut être attentif et qui sont, la société, même quand vous regardez certains pays au cours des 10 dernières années, le visage même physique des pays a changé.
Avec le même chef d'État.
Il y a beaucoup d'investissements publics
avec le même chef
qui ont modifié le visage des pays.
Est-ce que vous
partagez... Et donc les États, les gouvernements sont obligés de tenir compte de ces opinions publiques. Et donc il y a un débat.
Mais qu'est-ce qu'il faut attendre ? Il faut attendre un printemps africain comme il y a eu un printemps arabe par exemple ?
Le printemps, il est permanent dans ces pays.
Surtout, il a commencé dans les années 90 avec la période des conférences nationales. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une période de recul, justement, démocratique ?
Mais oui, le processus démocratique est fait d'avancée et de recul. Même dans les pays où on considère que c'est très avancé, on constate aujourd'hui qu'il y a des menaces.
Le président
Obama... Du fascisme, il y a des menaces, disons, de l'intolérance. Et donc, il faut tenir compte de ces réalités. Mais les acteurs citoyens, de plus en plus, prennent conscience de cela et prennent leurs responsabilités. Et je crois que c'est une dimension très importante que beaucoup d'observateurs ne notent pas.
Le président Obama disait récemment « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes ». En ce moment, ce que l'on constate avec ces chefs d'État qui souhaitent modifier la Constitution, ça risque encore d'affaiblir les institutions.
Vous savez, les institutions fortes se construisent par des citoyens déterminés, décidés. Et c'est ce que je constate, des citoyens de plus en plus nombreux dans tous ces pays d'Afrique aujourd'hui, qui sont déterminés à faire aboutir le projet démocratique.
Le fait de changer la Constitution, quel impact ça peut avoir sur les institutions ? Est-ce que c'est en soi quelque chose de négatif ? Ou est-ce qu'il y a des cas, dans certains cas, où c'est tolérable et dans d'autres non ?
Non, c'est l'objet du débat. Hein. C'est aux citoyens. Moi, bon, si je dois donner un exemple personnel dans cette problématique,
au Sénégal,
c'est
que...
Mais pas du Sénégal.
C'est les citoyens qui vont décider de ce qui va se passer. Mais c'est la mobilisation citoyenne.
Pardon de vous interrompre, mais on présente souvent le Sénégal comme une vitrine de cette bonne alternance démocratique qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays où les constitutions sont réécrites pour un troisième, pour un énième mandat.
Oui, mais même là, il y a eu des tentatives.
Oui, il y a Sénégal aussi.
C'est vrai. Il y a eu des tentatives. C'est pour dire que rien n'est acquis pour de bon. Il y a donc là, le débat se poursuit dans tous ces pays.
Ce qu'on observe aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un référendum, en général, le résultat va dans le sens souhaité par le chef d'État qui souhaite se maintenir au pouvoir.
Moi, en tant qu'historien, je vois les choses dans la perspective à long terme. Quand on se focalise uniquement sur l'événementiel, on risque de se tromper sur la tendance globale des choses. J'ai dit la tendance globale des choses aujourd'hui, c'est plus de pluralisme, plus de démocratie, et ça c'est une revendication citoyenne très forte, de citoyens mobilisés dans tous ces pays. Et ça,
mais
vous
ne voulez pas dire...
centrale, comme en Afrique de l'Ouest et comme en Afrique australe.
Vous ne voulez pas dire pas touche à la Constitution ?
Pardon ?
Vous ne voulez pas dire pas touche à la Constitution ?
Ça, ce n'est pas le rôle d'un individu, c'est le rôle d'un collectif de citoyens qui doit le faire. C'est une responsabilité historique des citoyens.
Est-ce que vous avez vous-même une position ? Et une position que vous auriez envie de faire valoir après auprès des chefs d'État ?
Moi, je l'ai fait à travers mon propre combat de 40 ans, de 50 ans au Sénégal. Donc, ma propre position parle d'elle-même.
Donc, que dites-vous quand vous rencontrez les différents chefs d'État qui sont concernés par...
Notre rôle est un rôle de bons offices, de diplomatie préventive. Et de par mon parcours, j'essaye de discuter avec les uns et les autres. Non seulement avec les chefs d'État, mais aussi avec tous les acteurs nationaux, pour éviter à ces pays des crises qui provoquent des ruptures, qui provoquent des reculs. Et aujourd'hui...
Mais pour prolonger la question de Cyril, lorsque vous rencontrez par exemple un chef d'État qui est là depuis quelques décennies et qui a bien envie de réécrire une constitution, vous lui dites amicalement, c'est pas une bonne idée ?
Il faut nécessairement qu'il y ait un débat national sur ces questions. Parce que, encore une fois, à cause des avancées démocratiques dans tous ces pays, et ce n'est plus comme il y a 20 ans, où un chef d'État peut décider. Et d'ailleurs, dans ces...
Ah, il y en a qui sont très tentés. Hein.
Même s'ils sont tentés de le faire, je crois que c'est par le débat. Ils savent bien qu'ils sont engagés dans un processus où il faut nécessairement parler avec les citoyens, organisés ou non.
Au fond, qu'est-ce que...
Et c'est ce que je constate dans tous ces pays. Ils engagent des débats. Maintenant, l'issue de ces débats, il appartient aux citoyens d'en déterminer les modalités.
Les chefs d'État qui ne souhaitent pas lâcher le pouvoir, qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent qu'après leur départ, ils soient poursuivis en justice. C'est la corruption au fond.
Je ne suis pas à leur place pour le savoir, mais ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui ont quitté le pouvoir et qui jouent un rôle positif très important sur la scène africaine aujourd'hui. Il y a ce conseil des SAS que l'Union africaine a mis en place, où il y a beaucoup d'anciens chefs d'État, de plus en plus, dans les différents pays.
On peut en citer quelques-uns, Abdou Diouf, et puis...
Diouf, il y a le président Pires au Cap-Vert, il y a le président Bouyoya, il y en a maintenant de plus en plus. Au Botswana, il y a le président Khama, Masré, il y a le président... ils sont nombreux maintenant.
Finalement, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas démuni face à ce problème?
Non, parce qu'il y a l'exemple, la valeur de l'exemple qui joue. Et il y a une vie après le palais, de plus en plus. Et je crois que beaucoup de chefs d'État en sont conscients. Et il faut simplement que ce processus-là de transition se fasse de manière pacifique et que les acteurs politiques fassent de la carte électorale l'arme de la démocratie, et que les fusils soient rangés, que les marchettes soient rangées au musée des souvenirs
et des
douloureux de l'histoire et des d'Afrique.
Quand vous voyez la situation au Burundi, par exemple, un pays de votre zone, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes inquiet de ce qui se passe? On parle non seulement de changement de la constitution, mais on parle également d'opposition très mal menée.
Oui, je crois que tout cela fait partie de ce que j'appelle tout à l'heure les hauts et les bas du processus démocratique.
Et là, on est dans
les accords d'Arusha ont marqué une étape importante dans l'histoire du Burundi. Il est essentiel que les acteurs burundais s'en tiennent non seulement à la lettre, mais surtout à l'esprit des accords d'Arusha, pour que le pays continue d'avancer sur le plan économique, sur le plan de sa stabilité sociale et politique. Et je crois, bon, ces derniers temps, il y a beaucoup, non seulement les acteurs internationaux qui interviennent dans ce débat, mais même à l'interne, il y a un débat important. Et notre rôle, c'est justement de contribuer à ce débat pour que le Burundi continue sa marche vers plus de stabilité.
Abdoulaye Batili, vous êtes aujourd'hui donc à Paris. Est-ce que vous avez le sentiment que les grandes puissances qui historiquement ont une relation avec l'Afrique sont aussi attentives, font le même effort? On sait que par exemple le budget du développement des nations, notamment de la France, est plutôt en diminution. Il y a une lassitude de l'aide envers le Sud?
Oui, c'est normal qu'il y ait la lassitude, mais je crois ce qu'on constate aussi dans tous ces pays, aussi bien les citoyens et même les gouvernements, de plus en plus considèrent que ce n'est pas de l'aide internationale que va venir le développement. Mmh. Le développement va venir de la mobilisation interne, de la réflexion interne pour soutenir cette mobilisation et tracer des voies nouvelles pour le développement. Le monde est aujourd'hui dans une nouvelle étape. Et l'Afrique encore plus. Il y a des forces sociales émergentes dans le continent africain qui aspirent à une nouvelle forme de développement fondée sur les richesses nationales.
Importante.
Et dans cette région de l'Afrique centrale, justement, les pays disposent d'énormes ressources. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est important de constater les évolutions des 10 dernières années en matière d'investissement public sur la base non seulement des ressources nationales, mais aussi de nouveaux partenariats avec de nouveaux acteurs internationaux,
comme la Chine,
au-delà des partenaires classiques.
Donc, par exemple, la Chine, qu'est-ce que vous pensez de son implication, du rôle qu'elle joue actuellement en Afrique?
Oui, c'est un nouveau partenariat que les États utilisent. Et je crois que, comme tous les partenariats extérieurs, il y a beaucoup de choses à en tirer. Il y a des leçons à la fois positives, mais autres qu'il faut en tirer.
Abdoulaye Batili, merci d'avoir accepté l'invitation d'International. Je rappelle donc que vous êtes le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour une région du monde dont vous nous dites qu'elle a droit à l'espoir. Il s'agit de l'Afrique centrale. Merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, toujours avec RFI et le quotidien Le Monde, pour un autre invité à International.